votre passion du moment, les pizzas au feu de bois. Margarita, pepperoni, truffe. Heureusement qu'avec l'abonnement Deliveroo Plus, les frais de livraison sont offerts. Comme ça, vous pouvez toutes les goûter, même les calzones. Si, si, ça compte aussi comme une pizza. En ce moment, l'abonnement Deliveroo Plus est à seulement 90 centimes d'euros par mois pendant 6 mois. Deliveroo, ah, là on est bien. Offre réservée aux clients n'ayant jamais été abonnés à Deliveroo Plus, à activer jusqu'au 13 octobre 2024. Conditions de l'offre sur deliveroo.fr/fr/terms et des abonnements sur le site Deliveroo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Si vous voulez la Tour Eiffel pour les jeunes, c'est comme quelque chose, c'est comme un objectif en fait. Tu vois, on est sur la mer, tout ce qui nous permet de tenir en vie, c'est que...
C'est comme un phare.
Voilà, c'est ça, au bout du tunnel quoi. Qu'on voit un phare qu'on voit quand on est sur la mer et qui fait sombre. Ouais, cette lumière qui nous dit, ouais, la ligne d'arrivée, elle est juste là-bas.
Son, ouais. Il y a plusieurs fois le son haut, il y a plusieurs manières de l'écrire, ok, okay. Et après, c'est avec le temps, on apprendra pour quelle orthographe, pour quel mot.
Ok, merci beaucoup.
Jeunesse africaine en exil, épisode 2. Trier, évaluer, la fabrique du mineur non accompagné.
J'ai fui.
Raphaël Kraft.
J'ai fui.
David Jakubowiez.
Il fuit, nous fîmes, vous fîtes, il ou elle fuit.
Le verbe avoir au passé simple.
Au passé simple.
Le verbe avoir.
J'ai fui.
Non, ça c'est le verbe.
J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eut, il ou elle eut.
Aïe, non, moi de passer simple, j'ai un peu de problème par rapport à ça.
Alors, pour raconter les histoires, c'est le passé simple.
Okay.
Nous quittâmes la Guinée.
Nous quittâmes la Guinée.
En quelle année?
En 2023.
Nous traversons
la frontière
avec
le Mali,
mm-hmm.
Après l'Algérie,
ouais.
Après la Tunisie, après nous sommes venus à... Après nous vîmes en Italie. C'est très très compliqué.
C'est compliqué. Non. C'est ma première fois d'entendre ça.
Je m'appelle Mamadi. Je suis né le 13 janvier 2008 dans la ville de Kérouan. Je suis situé à l'est de la Guinée.
Mamadi, est-ce que tu peux articuler? Je m'appelle Mamadi.
Je m'appelle Mamadi.
Je m'appelle Mamadi.
Je suis né le 13 janvier 2008.
Je suis né le 13 janvier 2008.
Dans la ville de Kérouané.
Dans la ville de Kérouané. Située dans l'est de la Guinée.
De la Guinée.
Ma mère est enseignante et mon père était cultivateur.
Est enseignante et mon père était cultivateur. Nous vivions dans une grande maison.
Nous vivions dans une grande maison en compagnie de ma famille élargie. J'aimais cette maison. Nous vivions tous ensemble avec mes cousins et cousines. Il y avait beaucoup d'espace tout autour. Nous pouvions jouer au football, à la marelle, à cache-cache, aux devinettes. Mon père cultivait le riz, le manioc, la patate et le fognon. Ma mère enseignait dans une école maternelle. Je l'y accompagnais souvent jusqu'au jour où je suis allé tout seul à l'école. Ce jour-là, j'ai pu toucher mon oreille gauche du bout des doigts de ma main droite par-dessus ma tête, condition en Guinée pour être scolarisé dans l'école publique. Enfin, j'étais assez grand, j'avais 6 ans. C'était merveilleux de me trouver dans la cour de récréation et de pouvoir jouer avec autant d'enfants de mon âge. Ma maîtresse s'appelait Madame Kadé Sako. Elle était si gentille. Elle avait beaucoup d'humour. Elle nous faisait nous asseoir en rond dans la cour et nous jouions au facteur qui n'est pas passé. Elle nous racontait des fables, dont celle du lièvre et de la hyène. Chaque matin, je me réveillais très tôt pour arriver en avance à l'école et espérer avoir une place assise.
Pôle évaluation des mineurs isolés étrangers. Rapport d'évaluation de Mamadi. Observation. Le récit de scolarité ne présente pas d'incohérence. Cependant, il ne semble pas spontané. Il semble préparé à l'avance. Il est relaté sans réflexion et sans hésitation. La maturité dont il fait preuve et son niveau de connaissance nous paraissent en décalage avec l'âge allégué.
Donc, j'irai à la vraie école.
Le « a », là, « j'irai à », c'est le verbe « avoir » ou pas? Donc, voilà, super.
Il y a « absent ».
Et bientôt, il y a un petit chapeau sur le « haut » aussi.
Oui, il y en a.
Ah, tu l'as mis? Ok. Bah, bravo.
Ouais, c'est mon souhait, ça, d'aller à l'école.
Votre prénom, c'est?
C'est Mamadi.
Vous êtes de quel pays?
La Guinée, Guinée-Conakry.
Vous avez quel âge?
J'ai 16 ans.
On vous a dit que vous étiez majeur, c'est ça? Et vous êtes en recours?
Oui, oui.
Et c'est quand le jugement?
Bon, c'est bientôt.
Et vous vivez où en attendant?
Nous sommes sur le pont Marie.
Donc vous vivez dans une tente sur le pont Marie?
Oui, oui, dans la tente.
Qu'est-ce que vous voulez faire comme exercice désormais?
J'aimerais bien la conjugaison là.
La conjugaison?
Oui.
Vous voulez faire un peu de passé?
Oui,
passé
aussi.
Ok. En Guinée.
En Guinée.
Je n'allais pas. Je n'allais pas à l'école. Voilà. Et vous alliez à l'école en Guinée?
Oui, je fais 5 ans, je pars à l'école.
Et après, vous avez dû arrêter faute d'argent?
Oui, quand mon papa était décédé.
Alors, au midi du mi, le dimanche après-midi, vous organisez des cours de français. Et j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Mamadi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Et il avait à cœur d'apprendre le passé simple, absolument.
Oui, Mamadi, il est très bien connu des bénévoles, puisque c'est un garçon qui est assez réservé, assez timide, et qui va quand même pour autant beaucoup auprès des bénévoles, puisqu'il a beaucoup de questions à poser. Enfin, il a besoin d'être rassuré en permanence.
Thomas, 22 ans, étudiant, bénévole à l'association Sous le même ciel et les Midis du Mi.
Donc Mamadi, je l'ai rencontré quelques semaines après son évaluation.
Comment ça se passe pour un jeune comme Mamadi lorsqu'il va se faire évaluer?
Donc, quand il arrive à la gare, donc, s'il va voir le commissariat de police, il est immédiatement orienté vers France Terre d'Asile, donc au département Paris, soit à Bobigny, donc à la Croix-Rouge, ou alors à Créteil, France Terre d'Asile également. Et donc, quand un jeune se présente au service d'évaluation, un premier entretien est fait pour connaître son identité. Il est mis à l'hôtel quelques jours en attendant de passer l'évaluation.
Et ensuite?
Et ensuite, donc, le jeune passe son évaluation, puis il retourne au gymnase ou à l'hôtel où il est hébergé. Et 2-3 jours après, il est de nouveau convoqué, il reçoit son résultat. Un papier de refus lui est remis et on lui dit qu'il est possible de faire un recours auprès du tribunal pour enfants. Donc il est abandonné dans la rue et après, bah, c'est au jeune de se débrouiller.
Mamadi, on lui a dit qu'il n'était pas mineur.
Oui, c'est ça, mais comme une bonne partie des jeunes qui se présentent au service d'évaluation, oui.
Pour quelle raison?
Je sais pas. J'ai pas les raisons officielles, mais peut-être un problème de moyens. Ou alors. Et bon, évidemment, il y a aussi beaucoup d'évaluations qui se font au faciès, plus qu'à la véracité du propos du jeune. C'est-à-dire que bon, les jeunes qui sont refusés, on le voit dans les rapports d'évaluation qu'on peut lire après l'évaluation, un paragraphe est toujours consacré au physique du jeune. Et donc, c'est sur cette caractéristique subjective que le jeune se voit refuser sa minorité.
Quand on regarde le rapport d'évaluation de Mamadi, d'abord, il est dit qu'il parle peul. Et qu'il a choisi de parler en français. Et en fait, il parle pas peul, il parle malinké. Comment se fait-il qu'on puisse se tromper comme ça?
Je mets ça sur le dos des nombreux copier-coller qui sont présents d'un rapport d'évaluation à l'autre. Parfois, on le voit même dans un rapport d'évaluation, le jeune n'est plus nommé par le prénom qu'il porte. Donc, enfin, voilà. Donc, je pense que c'est des maladresses de la part des évaluateurs qui ne personnalisent pas vraiment les rapports d'évaluation.
Juridiquement, un mineur non accompagné, c'est une personne de moins de 18 ans qui est dans un pays étranger en absence de ses parents ou titulaires de l'autorité parentale. Et de ces faits, il se trouve dans une situation de danger et il doit être protégé, pris en charge par les services institutionnels de protection de l'enfance de l'État où il se trouve.
Daniel Senovilla, chercheur au laboratoire Migrinter à l'Université de Poitiers.
J'aimerais bien revenir un petit peu sur un côté historique, parce qu'il a eu un grand changement de cette situation. Il a eu sans doute avant, parfois dans des migrations organisées, donc on parlait déjà des mineurs d'Indochine non accompagnés qui venaient dans le cadre de programmes organisés en France. Mais vraiment, on a commencé à parler au niveau médiatique, institutionnel, dans la deuxième moitié des années 90. Du coup, il a eu toute cette période, voilà, on était un petit peu dans une sorte de vide juridique, on bricolait avec les premières normes qu'on détectait, mais surtout on appliquait les droits de protection de l'enfance de façon adaptée à cette population. Et la tendance à cette période était de les accepter dans les dispositifs de protection de l'enfance de façon quasiment immédiate. Et après, s'il avait des vérifications à faire, à l'époque on pratiquait les tests médicaux légaux, qu'ils se pratiquent toujours aujourd'hui, mais plutôt sur ordonnance d'une autorité judiciaire, c'était parce qu'il avait vraiment des doutes sur l'identité, au sein des foyers, etc. Mais d'abord on protégeait, et après on faisait les vérifications sur l'âge, sur l'identité, etc.
Et c'est avec les années 1990 que les mineurs isolés, comme on va progressivement les appeler, deviennent plus visibles.
Noémie Paté, sociologue, autrice du livre « Minorité en errance ».
Mais en fait, assez récemment, à partir des années 90-2000, l'État va en faire un objet de son action politique. Le terme utilisé a varié, on est passé de mineurs sans papier, alors qu'on sait qu'un jeune en minorité n'est pas en situation irrégulière, mineur demandeur d'asile, mineur isolé, et puis progressivement on est arrivé à mineur non accompagné pour s'harmoniser sur la catégorie utilisée à l'échelle européenne.
Donc on les voit apparaître dans l'espace public et médiatique à un moment où apparaît également le demandeur d'asile et le réfugié.
Ouais, tout à fait. Alors c'est pas anodin du tout. On sait que la période des années 70-80, c'est une période de transformation de nos politiques migratoires et ça va se jouer notamment effectivement sur une précarisation de l'accès au droit d'asile avec voilà, la création par exemple de la catégorie demandeur d'asile alors que jusque-là seule la catégorie du réfugié existait. En fait, ce que ça révèle, c'est au fond une institutionnalisation des pratiques de sélection dans nos politiques migratoires. Et cette idée, c'est il faut faire le tri. Et donc on va créer des institutions qui ont cet objectif-là de faire le tri entre les bons et les mauvais, les vrais et les faux, les utiles et les inutiles. Et les mineurs isolés, mineurs non accompagnés, effectivement, ne font pas l'économie, entre guillemets, de ce soupçon. Et ça vient révéler le fait que ces jeunes qui sont pris au carrefour de deux forces contradictoires, enfance, migrants, en fait, c'est la casquette migrant, effectivement, qui va primer dans le traitement qui leur est réservé.
Je suis allé à l'école jusqu'en CM2. J'allais passer l'examen d'entrée au collège quand mon père décéda. Il avait contracté la fièvre typhoïde. Ma mère était partie à Conakry après avoir divorcé de mon père quand j'avais 2 ans. Je me suis retrouvé seul. Mon oncle, le grand frère de mon père, est venu me chercher un jour pour m'emmener chez lui à Cancan, la grande ville plus au nord. Comme pour ses 3 enfants, il ne m'envoya non pas au collège, mais à l'école coranique.
J'étais déçu,
d'autant plus que je m'étais classé parmi les meilleurs à l'école primaire. Sa femme ne me traitait pas comme ses enfants. Heureusement, mon oncle, quand il était là, était gentil avec moi. J'aurais aimé rejoindre ma mère à Conakry, mais son nouveau mari ne voulait pas de moi. Trois années s'écoulèrent avant que je ne voie arriver le petit frère de ma mère à la maison de mon oncle paternel. Il nous annonça alors être venu me chercher pour m'emmener à Kouré-Malé, le temps des vacances. À Kouré-Malé. Nous partîmes le matin pour passer la frontière. Nous étions serrés les uns contre les autres dans un vieux camion. J'ignorais notre destination. Mon oncle ne m'avait encore rien dit.
Nous partîmes le matin pour passer la frontière.
Partîmes, c'est le...
C'est le passé simple.
De...
Le verbe partir. à Kouré-Malé, nous partîmes le matin pour passer la frontière. Nous étions serrés les uns contre les autres dans un vieux camion. J'ignorais notre destination.
Mon oncle ne m'avait encore rien dit. Mais j'étais content. Il y avait de nombreux jeunes de mon âge dans ce camion. Il faut savoir que dans mon pays, monter dans une voiture ou un camion est une chose rare pour un enfant. Je ne l'avais fait qu'en quelques occasions, à Cancan notamment.
Nous nous amusions le dimanche avec mes amis,
à monter secrètement dans les camions de transport de sable pour nous rendre jusqu'au fleuve pour nous y baigner. J'aimais le vent sur mon visage.
Le paysage qui défile.
Je retrouvais ces sensations dans ce camion bondé de monde et découvris vite, par quelques discussions avec mes voisins d'inconfort, que nous roulions vers le Mali. C'est à ce moment-là que mon oncle m'a dit la vérité. Nous partions pour l'Europe.
Le récit des conditions du départ, entre parenthèses, un voyage vers une destination inconnue, ignorance des motifs du départ, un accompagnement par une connaissance et méconnaissance des motifs du départ de l'accompagnateur nous paraît stéréotypé. Ce récit est fréquemment relaté par les jeunes en provenance de cette zone géographique. Cela nous interroge sur son authenticité.
Là, on reproche aux jeunes de tous avoir la même histoire. Mais c'est soit on reproche aux jeunes de ne pas connaître les raisons du départ, d'être toujours accompagné par un adulte, ce qui est assez évident, j'ai envie de dire, pour un enfant. Mais d'un autre côté, si le jeune dit qu'il est venu de lui-même, qu'il savait qu'il allait en Europe, qu'il connaît le financement de son voyage, on va lui dire que c'est lui qui a tout préparé, qu'il est beaucoup trop autonome et que c'est en contradiction avec l'âge allégué.
Donc Mamadi, c'est un parmi tant d'autres. Quel est le dénominateur commun dans les rapports d'évaluation que vous pouvez lire?
La question devrait plutôt être inversée, c'est quelle est la spécificité de chaque rapport d'évaluation? À part le nom du jeune et sa date de naissance, il n'y a pas beaucoup de changements. On a exactement les mêmes commentaires quasiment pour tous les jeunes. Peu importe ce que peut dire le jeune, on lui reprochera le contraire. Enfin, on lui reprochera ce qu'il a dit en mentionnant que l'inverse aurait été une preuve de minorité.
L'évaluation jusqu'en 2013, donc le premier texte qui a été publié sur le sujet, c'est la circulaire Taubira, qui a pour objectif de proposer une alternative à l'expertise médicale. Et en disant, on va proposer une nouvelle méthode qui va être celle de l'évaluation sociale. Et donc l'idée de l'évaluation sociale, ça s'appuie sur le modèle de l'entretien social, qui est une méthode qui a été consacrée dans le champ de l'action sociale à fin des années 90, début des années 2000, dans l'objectif de repérer les situations de danger chez les individus et notamment chez les enfants. Cette méthode de l'entretien social va être ici récupérée dans un contexte de soupçons et donc dans l'objectif de passer à revue toutes les étapes de la trajectoire biographique du jeune dans l'objectif de plaider ou non en faveur de l'âge allégué. Et donc, ça va être toutes les séquences biographiques, la famille, la scolarité, la situation dans le pays d'origine, le motif migratoire, la route migratoire, le projet en France, l'arrivée en France.
Noémie Paté, sociologue, autrice du livre « Minorité en errance ».
Donc cette méthode-là, en fait, elle va être un peu présentée comme étant la nouvelle méthode d'évaluation, un peu une réussite à partir de 2013.
Et... humanisante.
C'est ça, une manière de réhumaniser l'évaluation, tout à fait. Et donc moi, ma thèse, elle portait précisément sur ces pratiques d'évaluation sociale de l'âge.
Et qu'est-ce que vous avez constaté ?
Alors, ma thèse, elle conclut à l'invalidité de cette méthode, pour plusieurs raisons. Le premier constat qu'on fait, c'est la très très grande hétérogénéité des taux de reconnaissance, d'un département à l'autre, d'un évaluateur à l'autre, d'une période à l'autre. Par conséquent...
De 0 à 100%.
Ouais, ça peut passer de 0 à 100%. Concrètement, pour les jeunes, ça représente une très forte injustice territoriale parce qu'en fonction de là où ils vont demander la protection ou de la période à laquelle ils vont demander leur protection, eh bien, ils auront plus ou moins de chances de l'obtenir. Par conséquent, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui explique cette hétérogénéité ? Autrement dit, comment la décision se prend ? Sur quel type de critères ? Et à quoi s'adossent ces critères ? Et ce que j'ai observé, c'est que, en fait, les justifications qui accompagnent les décisions des évaluateurs font complètement sortir l'évaluation de la minorité du champ de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que ces justifications démontrent la très grande instabilité des critères utilisés pour prendre la décision et donc la très grande subjectivité de cette pratique de l'évaluation.
Quels sont-ils ?
Alors, le premier grand topic de justification que j'ai pu identifier, c'est ce qu'on va appeler les données objectivables, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations sur l'état civil et on va aller chercher des données chiffrées, ce qui va permettre de faire des calculs. Par exemple, la scolarité est particulièrement utilisée pour calculer s'il avait tel âge à telle date. Aujourd'hui, il aura tel âge à telle date.
Alors, est-ce que tu as été à l'école ?
Oui.
Tu as commencé à quel âge ?
À l'âge de 4 ans.
Reconstitution de l'entretien d'évaluation de junior, 16 ans, citoyen camerounais.
Tu arrêtes quand l'école publique ?
Là, l'école publique, à l'âge de 6 ans.
Tu te souviens de l'année ?
Oui, je me souviens.
Ouais, dis-moi.
C'était en 2012.
D'accord. Et donc, tu rentres en école privée en quelle année ?
En 2013.
Et du coup, tu quittes quand l'école ?
En 2016.
À quel âge ?
L'âge de
8. Et derrière la survalorisation de la scolarité comme outil de discernement, derrière, ce qu'on constate, c'est une sélection discrète de ceux qui n'ont pas été scolarisés. Donc ça, c'est le premier type de justification que j'ai identifié. Le deuxième, c'est ce qu'on va appeler les éléments de légitimité physique et ou comportementale. Alors sur la question des descriptions physiques, le défenseur des droits très rapidement a pris position sur le fait que bah, du coup ça donne lieu à des descriptions de type bah, il a des poils, il a une carrure un peu carrée, ou bien elle a du vernis, ou bien il est propre sur lui, etc. Des critères qui sont très questionnables. Et moi j'ai rencontré des jeunes qui sont arrivés en France, qui ont vécu à la rue pendant par exemple un ou deux mois, et qui en fait au bout d'un ou deux mois avait pris 10 ans d'âge quoi. Donc voilà, les situations sociales qu'ils traversent marquent les corps d'une part, et puis c'est ne pas prendre en compte les situations d'origine dans lesquelles ils ont grandi, les caractères ethniques, etc. Enfin bref, donc il y a tout un ensemble d'arguments qui fait que les descriptions physiques sont questionnables.
Il a juste dit d'écrire aujourd'hui il fait beau et je suis heureux.
C'est quoi maintenant aujourd'hui? Après on va écrire une autre phrase à la ligne. Demain serais-je aussi heureux ? Point d'interrogation.
Cléo Marmier, vous êtes doctorante en sociologie, spécialiste des jeunesses en mouvement. Vous vous êtes intéressée particulièrement au terrain marocain, espagnol et français. Qu'est-ce que, lorsqu'il est arrivé en France, le jeune qui a quitté son pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Alors avant d'arriver en France, il est arrivé en Espagne, s'il est passé par le Maroc. En Espagne, ce qu'on voit beaucoup, c'est que ces jeunes vont se déclarer majeurs pour éviter d'être placés dans des centres de protection de l'enfance. Pour ces jeunes, qui sont généralement francophones, il n'y a aucun intérêt à rester plusieurs années en Espagne, puisque eux, là où ils veulent arriver, c'est la France.
C'est-à-dire que ces jeunes, lorsqu'ils quittent leur pays, ils ont 12, 13, 14, 15 ans, ils sont mineurs légalement, mais ils font tout pour ne pas en avoir l'air, pour faciliter leur voyage.
C'est ça qui est très intéressant. Alors déjà, l'idée de la minorité, d'être mineur, ne fait pas nécessairement sens pour ces jeunes. Ils vont apprendre au fil de leur parcours l'importance de cette minorité d'âge dans le regard en fait des institutions européennes. Mais ce qui se joue profondément pour ces jeunes tout au long de leur parcours avant l'Europe, c'est au contraire d'essayer de se vieillir. Puisque paraître petit, paraître chérubin, paraître juvénile, c'est paraître fragile. C'est s'exposer à plus de dangers, c'est s'exposer à plus d'exactions, c'est moins facilement être pris au sérieux pendant les tentatives de traverser de frontières. Donc en fait, ces jeunes vont plutôt essayer de paraître plus forts, plus grands. Et il y a des jeunes, par exemple, qui vont avoir des stratégies de musculation intensive. Enfin, il y a avoir des jeunes qui vont lire sur Google qu'on peut mettre un mélange de cendres et d'huile pour faire pousser la barbe. Et ensuite, tout l'enjeu va être plutôt de paraître le plus petit possible pour pouvoir correspondre à cette imagerie de l'innocence et de l'enfance qui est extrêmement importante en Europe pour paraître légitime à une protection et à une assistance. Et donc, c'est une espèce de choc qui se produit à partir de l'évaluation de la minorité, où des jeunes qui aspirent à l'autonomie, à l'indépendance, à l'adultéité, en quelque sorte, vont être contraints à performer ce qu'est l'enfance dans des imaginaires occidentaux et européens.
Quand décidâtes-vous d'aller en France ?
Nous décidons de venir en France. Bon, c'était
en
Italie, non ?
Oui, en Italie. C'était en Italie qu'on a décidé de venir en France parce que la langue était trop dure à comprendre.
Quel est votre prénom ?
Bon, moi, mon prénom, c'est Mamadou.
Vous êtes guinéen, apparemment ?
Oui, bah oui, moi, je suis guinéen.
De quelle ville ?
Moi, je viens de Conakry. Moi, je suis grandi dans la capitale.
Vous avez quel âge ?
Bon, en fait, moi, j'ai 14 ans. Bientôt, dans 2 mois, comme ça, j'aurai mes 15 ans.
Ils vous ont pas reconnu mineur au premier entretien ?
Non.
Vous avez même pas un poil, là, que je vois.
Oui.
Vous êtes un petit mouine ?
Oui. C'est le destin.
En fait, ce qui me semble important de souligner dans les rapports d'évaluation, c'est que tout peut toujours être retenu contre les jeunes, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut reprocher un excès d'autonomie, comme on peut reprocher un excès d'incompréhension de ce qui se joue, qui prouve dans tous les cas une majorité. On peut opposer exactement les mêmes arguments pour pencher pour une minorité ou pour pencher pour une majorité. Parfois, faire des erreurs dans les dates chronologiques, ça va être une preuve de l'enfance. Ça va être une preuve que voilà, il y a une espèce d'immaturité cognitive qui fait que le jeune ne peut pas se repérer dans des repères chronologiques. Et simultanément, pour d'autres jeunes dont on pressent qu'ils ne pourraient pas appartenir à l'enfance, ces doutes sur la chronologie vont servir d'argument pour acter de la majorité du jeune. Et ce que je trouve assez troublant avec cette séquence d'évaluation de la minorité, c'est qu'il y a des jeunes que j'ai pu rencontrer depuis le Maroc, qui ont pu arriver en France, ils étaient âgés de 14-15 ans, et vont se sentir, par leur jeune âge, encore plus démunis face à cette épreuve institutionnelle en disant « Oui, mais les grands, eux, ils vont savoir ce qu'ils vont devoir dire, quand et comment, et moi, en fait, je vais perdre. » Parce qu'il y a vraiment cette idée que c'est une sanction institutionnelle, qu'on gagne si on est reconnu mineur, on perd si on est sorti. Et donc, en fait, cette séquence d'évaluation de la minorité, qui est en théorie une porte d'accès à la protection de l'enfance, va être vécue comme une épreuve où les plus jeunes vont se sentir d'autant plus démunis, puisqu'en fait, tout est pensé comme une série d'obstacles où il s'agirait de faire trébucher les jeunes. Ou en tout cas, c'est comme ça que les jeunes vivent.
Alors, je vais t'expliquer un petit peu, du coup. Là, tu es à France Terre d'Asile. On est une association qui aide les êtres humains, d'accord ?
D'accord.
On a décidé de reprendre ce dispositif-là où tu es accueillie aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas que l'État français le fasse. Sinon là, si c'était l'État français, ça aurait été avec des policiers qui te faisaient ça. Nous, on ne voulait pas. C'est pour ça qu'on vous offre un logement le temps que vous êtes évalué. D'accord ?
D'accord.
Du coup, comment ça se passe ? Si l'aide sociale à l'enfance te reconnaît mineur, tu seras pris en charge. Si elle ne te reconnaît pas mineur, malheureusement, c'est ce que je ne te souhaite pas, tu auras quand même 2 recours. Tu as le droit de dire « Bah non, l'aide sociale à l'enfance, ils se sont trompés, je suis mineur ». Sinon, la deuxième solution, c'est la demande d'asile. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non ? La demande d'asile, tu vois un petit peu les demandes de réfugiés ?
Non.
Réfugié, tu sais ce que c'est, un réfugié ?
Non.
On va dire que c'est un papier, un document qui te permet de rester en France. Parce que là, c'est que l'évaluation de la minorité, donc c'est tout ce qui compte en fait. Mais pour la demande d'asile, on pose beaucoup plus de questions, d'accord ?
D'accord.
Donc on va commencer. Tu peux me redire ton nom et ton prénom ?
Pourquoi vous avez décidé d'enregistrer votre évaluation ?
Moi, j'ai décidé d'enregistrer mon évaluation parce que pour moi, ça devait me plaire.
Junior, 17 ans, citoyen camerounais.
Après ça, peut-être, comme je suis en France maintenant, si les choses marchent bien, peut-être demain, si j'ai une famille... Je peux peut-être dire à mon fils que aujourd'hui, quand tu vois là, moi j'ai migré pour arriver ici. Peut-être quand tu vas lui dire que tu as migré pour arriver ici, il ne va pas te croire. Maintenant, lui montrant l'audio, il comprend quand tu es arrivé, ce n'était pas facile. Tu as dû te battre et tout. Quand lui va voir, maintenant il va comprendre que non, son papa, tout ce qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas tombé du ciel. Son papa a souffert pour avoir tout ça. Donc c'était un peu dans le sens là.
Lorsque vous partez à l'évaluation, vous avez une appréhension ? Vous avez peur ? Vous êtes inquiet ?
Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que c'est ton histoire, c'est ton vécu que tu racontes, ce que tu as eu à vivre et tout et tout. Tu dis même la vérité, tu n'es pas sûr si on va te prendre. C'est pour ça que le jour où on a l'évaluation, on dit que tu pars t'asseoir sur la chaise électrique.
La chaise électrique.
Oui, la chaise électrique, c'est l'évaluation. Tu es assis, on te pose les questions. Tu revêts des souvenirs en toi que tu ne voulais plus. Malgré tout ça, ça n'empêche pas le poteau. Ça n'empêche pas le poteau. C'est comme ça.
Alors, ce qui est frappant dans cette évaluation qu'on a pu écouter, c'est que dès les premières minutes de cet entretien, l'évaluatrice vous dit que vous pouvez demander l'asile. Vous saviez ce que c'est à ce moment-là, demander l'asile ?
Non, moi je ne sais pas. Moi j'étais novice, donc j'étais perdu. J'étais comme un chien devant la télé.
Parce que quand on informe un mineur présumé qu'il peut demander l'asile, c'est qu'on pense qu'il n'est pas mineur dès le début. Ça veut dire qu'elle vous a jugé sur votre physique. Peut-être au début vous êtes très grand.
Bah, je ne sais pas, peut-être ma taille a dû l'influencer. Bah, si on veut juste s'attarder sur la taille, ce n'est pas de ma faute si je suis grand de taille. Ce n'est pas moi, c'est la nature.
Vous mesurez combien ?
2 mètres. 2 mètres. Mais j'ai grandi depuis ce temps. Hein. Mais qu'est-ce que ça avait, n'avait pas, j'ai grandi encore. Hein. Parce que ça fait déjà 8 ou 9 mois aujourd'hui. Après l'évaluation, j'ai grandi et j'ai encore beaucoup changé.
Qu'est-ce qu'elle vous demande pendant cet entretien ?
Elle me demande mon parcours, qu'est-ce qui a fait quitter mon pays. Elle me demande de dire ce qui se passe dans mon pays, ce qui a eu lieu. Donc elle me demande des choses comme ça pour voir si ce que je dis c'est la vérité. Malheureusement, j'ai tout donné, j'ai tout dit. Et c'était exact. Parce que quand tu as vécu quelque chose, tu ne peux pas tâtonner.
Et ce que vous nous avez dit de votre rapport d'évaluation, c'est que un des motifs de refus de votre reconnaissance de minorité, c'est qu'il n'y a pas de concordance entre les dates.
Ben oui, c'est ce qu'elle me dit. Ben, si je me présente déjà, je te dis, je ne connais pas mes parents, je ne connais rien. Je ne suis pas un sorcier. Pour imaginer l'âge approximatif de mes parents, je ne suis pas un sorcier. J'ai dit ce que je connaissais. Je ne pouvais pas inventer quelque chose que je ne connais pas.
Qu'est-ce que vous ressentez pendant cet entretien ?
Beaucoup de choses. En fait, j'étais obligé de réveiller tous ces souvenirs. Et après, je me suis senti mal. Au moins pendant un mois. Parce que ça pèse, ça fait mal. Et ce sont des choses qu'on garde en nous. Mais quand quelqu'un te fait sortir ça, tu dis à la personne, ben après, on se sent mal. On se sent mal.
Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous apprenez que vous avez touché le poteau, c'est-à-dire que vous n'avez pas marqué le but pour la reconnaissance de minorité?
Mais c'est injuste. C'est injuste. Bon, sur mon parcours migratoire, j'ai tellement pleuré. Pleurer où c'était même plus bon. J'ai décidé de ne pas pleurer. J'ai décidé de lever la tête haute, de ne pas pleurer. Mais c'était plus fort que moi. Avant de voir les larmes couler, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et c'est trop fort à expliquer. C'est trop fort à expliquer. Mais ce que je peux dire, j'ai beaucoup eu mal. Ça m'a trop bouleversé.
Tu as mal quelque part là ou pas ?
Ma dent là qui est percée. Et je ne parviens pas à dormir la nuit.
Est-ce que tu connais un adulte qui peut te prendre en charge ?
Non.
Ok. Moi, c'est bon. J'ai fini de te poser des questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ton dossier ? Mais là, il est très complet. Honnêtement, tu as répondu à toutes les questions. C'est très rare, mais tu as réussi. Pour rappel, normalement, tu seras reconvoqué demain ou après-demain, ok ? Pour la réponse. Donc je te souhaite que ça fonctionne, enfin que on te reconnaisse mineur. D'accord ? rapport d'évaluation de Junior. Monsieur, nous avons le regret de vous faire savoir que cet entretien d'évaluation ne permet pas de conclure à votre minorité et à votre isolement dans la mesure où vos propos concernant votre famille et votre quotidien ne comportent pas de repères temporels croisés permettant de les rattacher à l'âge que vous déclarez. Vous ignorez notamment l'âge des membres de votre famille, même de manière approximative. Le fort degré d'autonomie et de maturité dont vous avez fait preuve en prenant seul la décision de mettre fin à votre prise en charge en Italie et en effectuant seul, sans adulte, la suite de votre parcours migratoire n'est pas compatible avec l'âge que vous déclarez. Le récit de votre parcours migratoire manque de clarté quant à vos motivations de départ. En effet, vous expliquez avoir dû fuir votre pays car votre père voulait vous initier à la magie noire. Vous ne donnez pas d'éléments qui permettraient d'attester de la prise en compte de votre minorité par les autorités locales italiennes. Vous déclarez par ailleurs ne pas avoir été reconnu mineur et être resté dans un logement pour majeur. Vous ne présentez aucun document d'identité à l'appui de vos déclarations.
Dans cette situation d'évaluation où l'incertitude est omniprésente, en fait, le doute va devenir l'arme. Dès que le doute pointe, alors le doute se généralise sur l'ensemble de ce qu'est le jeune, en fait, sur sa situation, sur son âge, sur son récit. On observe que des jeunes vont essayer d'improviser face à ce dispositif, de répondre aux attentes supposées des évaluateurs, et parfois ils font des fausses notes. Sauf qu'à la moindre fausse note, le doute apparaît, et donc, comme je le disais, le doute se généralise sur l'ensemble du récit.
À tel point que l'évaluateur, avez-vous observé, est en quête de la faute et de la fausse note pour pouvoir justifier une décision qu'il a parfois déjà prise.
Absolument. Et là, ça questionne le principe de présomption de minorité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une démarche de... On part du principe qu'il est mineur et on va investiguer pour vérifier qu'il est bien mineur, ou est-ce qu'on part du principe qu'il est majeur et je vais aller chercher des éléments dans son récit ou dans son comportement qui vont me permettre d'argumenter la décision qui a été prise en amont. Et c'est là où ça met l'accent sur la force de ces catégories préétablies dans lesquelles le jeune tombe quasiment dès son arrivée en réalité.
Qu'est-ce qui se passe?
On est venu ici pour revendiquer notre droit à Tolbiac ici, parce que la majorité des mineurs, c'est ici qui vient pour demander les minorités, mais elle ne reconnaît pas les mineurs. Surtout maintenant. Quand on t'est évalué, on te dit qu'on n'est pas reconnu mineur, on ne te loge pas, on ne te donne rien sauf, on te fait foutre dehors. On est resté pendant des, y a des autres, pendant des quelques mois, des années.
Manifestation du collectif des jeunes de Belleville devant l'accueil des mineurs non accompagnés de France Terre d'Asile à Paris.
Qui fait la guerre aux mineurs désolés ? La honte à ce pouvoir !
Révendication du collectif des jeunes du parc de Belleville.
Milord, 16 ans, ressortissante congolaise.
Premièrement, à l'évaluation, notre droit au repos n'est pas respecté. Avant l'évaluation, on n'est pas hébergé ou alors on est hébergé juste une nuit avant de faire l'évaluation. L'évaluation est raciste. Les questions sont mauvaises. L'évaluateur nous demande des choses qui sont différentes de notre culture. Par exemple, chez nous, on ne connaît pas l'âge de nos parents et on est refusé à cause de ça aussi. On nous demande des choses pour nous piéger. Imagine ça, c'est ce que moi, on m'a dit dans mon recours, mais aussi des jeunes qu'on les a dit la même chose. Ouais. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas dites, mais l'évaluateur écrit ça sur notre rapport d'évaluation. Aussi, les traducteurs font mal le travail. Ils écrivent des choses qu'on ne dit pas. Quand on nous refuse, ils disent que c'est quand on rencontre la même chose et que les autres, alors, c'est juste qu'on a presque fait le même voyage pour venir ici. Aussi, nous refusent quand on parle comme des majeurs et qu'on ne le regarde pas dans les yeux. Mais dans notre culture, c'est comme ça.
Dans votre culture, on ne regarde pas les adultes dans les yeux.
Exactement ça.
Je prends juste mes clés parce que...
Hop.
Moi c'est Béatrice Allan, je suis la directrice du service d'évaluation de l'AMNA à France Terre d'Asile.
AMNA ?
C'est pour l'accueil des mineurs non accompagnés. Là, on est plutôt au niveau évaluation. Donc, on a différents bureaux d'entretien. Pour vous donner une idée, on essaye de faire des bureaux d'entretien les plus accueillants possibles. Les noms des bureaux sont des noms de réfugiés pour que, pareil, on puisse essayer d'individualiser un petit peu les bureaux avec les professionnels.
Mais là, c'est pas des réfugiés, c'est des mineurs.
Oui, c'est des mineurs, mais on est à France Terre d'Asile. Donc, quand on
oui, mais quel rapport entre ces jeunes et réfugiés ?
Pas un rapport particulier. C'était surtout quand on a voulu aménager les locaux, de pouvoir essayer de personnaliser les bureaux plutôt que d'avoir des bureaux numérotés, ce qui fait quand même très administratif. On s'est dit, on va essayer de donner des noms aux bureaux. Et c'est vrai que on a recensé les salariés, qu'est-ce qu'ils trouvaient chouette comme nom. Et je pense que le côté asile de France Terre d'Asile est ressorti dans chacun de nous. Et on a nommé les bureaux, les noms de demandeurs d'asile et de réfugiés. Alors, on a Rudolph Nourev, donc un danseur russe. On a Bob Marley, qui était un réfugié. On a Anna Orant, qui était une journaliste philosophe allemande. Alors par ici, il y a Freddie Mercury, qui était un réfugié que peu de personnes le savaient. On a Alec Weck, qui est une top modèle, il me semble, du Soudan. On a deux derniers. Forcément, il y a Malala Yousafzai. Et après, alors, il y a un scientifique polonais dont je n'arrive jamais à dire le nom.
Marek Kirzenbaum.
Voilà.
À quoi ça ressemble une pièce d'évaluation ?
Alors, je vais vous montrer, justement... Juste pour montrer le bureau.
Bonjour.
Donc, tous les bureaux se ressemblent plus ou moins dans la disposition, mais c'est vrai que de manière générale, on essaie de décorer les bureaux, que ce soit des lieux qui soient agréables, que le jeune puisse se sentir à l'aise, histoire que le jeune, il se sente pas non plus en interrogatoire de police.
Et sachant qu'on est en sous-sol en plus.
Oui, là on est au rez-de-jardin, donc c'est pas évident, mais c'est vrai qu'avec les lumières et un peu de couleurs et un peu d'images sur les murs, ça fait quand même plus gai que ce qu'on aurait pensé.
Qu'est-ce que c'est que ce faisceau d'indices qui va vous permettre de déterminer ou non la minorité d'un jeune ?
Alors le faisceau d'indices, c'est si le jeune présente des documents d'identité, que ce soit avec ou sans photo, enfin des papiers, qu'est-ce qu'il aura à se présenter qui pourra justifier de son identité ? Alors on parle beaucoup de repères chronologiques, donc par rapport à sa composition familiale et sa vie au pays. Est-ce que les repères temporels qu'il va donner, que ce soit les écarts d'âge avec sa fratrie, où est-ce qu'il se situe au niveau scolaire avec un événement qui s'est déroulé dans son pays, que ce soit le Sénégal qui gagne la CAN ou au contraire perd la finale de la CAN, que ce soit par rapport à des événements politiques avec des élections, des coups d'État, et puis par rapport à ces événements, par rapport à sa vie, donc je disais l'écart avec sa fratrie, s'il peut situer son âge au mariage de sa sœur, par exemple, ou au décès de son père, qui nous permettent ensuite de voir est-ce que ça colle avec l'âge qu'il allègue aujourd'hui. Et puis après, par rapport au parcours migratoire, pareil, qui vont nous donner des indices sur une cohérence avec l'âge allégué. Donc souvent, les migrants, ils sont obligés de travailler pendant le parcours migratoire.
Les migrants ?
Oui. Tous les migrants sont... les migrants qui viennent...
Les mineurs présumés.
Pas forcément. Toutes les personnes, en fait. Quand ils vont quitter leur pays d'origine, quand ils vont venir faire la traversée de la Méditerranée, donc par la Libye, la Tunisie, le Maroc, pour payer ce parcours migratoire-là, ils vont travailler. Alors, les enfants travaillent, les adultes travaillent, parce qu'ils sont obligés de payer les passeurs. Et en fait, par exemple, on peut prendre le genre de travail qu'ils effectuaient. Est-ce que ça, c'est des tâches qu'on sait sont confiées à des jeunes adolescents, ou est-ce que les tâches qu'ils décrivent, c'est des tâches que un adolescent sur son parcours migratoire ne va pas effectuer, et plutôt c'est un majeur qui va effectuer ce travail-là.
Par exemple ?
En Libye, dans le bâtiment, tourner le ciment, ça va être quelque chose qu'un adolescent va pouvoir faire. Mais par contre, surélever des briques de pierre, ça va être quelque chose qu'on va donner à des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont déjà travaillé dans le bâtiment et qui, du coup, sont majeures.
Lorsque vous êtes seul avec un jeune ici dans cette pièce, vous savez que ce que vous écrivez, ce que vous entendez, ce que vous retranscrivez de l'évaluation que vous menez, ça peut le conduire à la rue. J'imagine que ça doit être très difficile pour vous d'apprécier.
Oui, c'est très difficile de voir que un jeune qui nous a même supplié en entretien de l'aider, c'est se sentir impuissant, c'est pas évident de...
Muriel Yao, évaluatrice à l'accueil des mineurs non accompagnés de Paris, de France Terre d'Asile.
On a quand même des sentiments, on a quand même de l'empathie, donc de se dire qu'on va recroiser ce jeune-là, on va devoir lui dire que malheureusement tu vas retourner dans la rue, c'est pas agréable comme sensation. Malheureusement, ça fait partie du métier.
Il y a un gros turnover dans ce métier.
Oui, il y a un gros turnover et je pense que c'est lié à la santé mentale. Bon, après, on a des APP avec un psychologue, analyse de pratique professionnelle, qui se fait un mercredi par mois. Ça nous permet de pouvoir en parler, de pouvoir partager nos pratiques. Il y a un grand turnover parce que c'est pas du tout facile comme travail. C'est très difficile. Mais voilà, je pense que souvent, avec un peu de passion, des déterminations, on y arrive un peu quand même.
Alors, les profils des évaluateurs aussi sont assez hétérogènes, mais effectivement, on repère quand même des grandes tendances, plutôt Bac plus 5, soit en droit, soit plutôt géopolitique, relations internationales, Sciences Po, qui pour beaucoup auraient voulu travailler par exemple en ONG, en association, et qui se retrouvent à faire de l'évaluation parce que ça recrute.
Noémie Paté, sociologue, autrice du livre « Minorité en errance ».
Et pour certains qui se retrouvent en situation de souffrance dans leur travail, j'ai pu avoir accès à des rapports internes, par exemple à France Terre d'Asile, qui viennent démontrer que les taux de souffrance au travail les plus importants se retrouvent chez les évaluateurs, parmi tous les types de travailleurs sociaux, parce que il y a une difficulté en fait à trouver du sens à leur activité, et à cela s'ajoute un travail de type un peu travail à la chaîne, et donc un effet de lassitude et d'anesthésie émotionnelle qui va progressivement durcir l'écoute, et donc qui va durcir la décision. À cela s'ajoute en fait le fait que les rapports d'évaluation sont envoyés donc au parquet, c'est les substituts du procureur qui sont décisionnaires en première instance, et que les décisions du parquet peuvent apparaître comme étant parfois un peu arbitraires. Alors ça dépend des départements, mais les évaluateurs vont parfois ne pas comprendre en fait la logique des décisions des parquets par rapport aux conclusions de leur rapport. Et donc quelque part vont se dire, mais au fond, les décisions, est-ce qu'elles correspondent plus à un quota interne et implicite, ou est-ce que les décisions suivent véritablement nos rapports d'évaluation ? Et donc, du coup, directement, ce que ça remet en cause, c'est l'utilité de leur travail.
Ce que l'on constate, en tout cas aux défenseurs des droits, à travers les nombreux rapports dont on peut prendre connaissance, parce que les mineurs étrangers, c'est à peu près 10% des saisines sur les droits de l'enfant de l'institution du défenseur des droits, c'est que c'est bien trop souvent, ces évaluations ne se font pas de manière pluridisciplinaire, elles se font par une personne, bien souvent sans temps de répit. Donc, dans des conditions où le jeune, parfois, arrive et ne comprend pas très bien le processus dans lequel il est entraîné, et avec, du coup, un positionnement qui est compliqué pour celui du conseil départemental, où il y a quand même un conflit d'intérêts assez évident, c'est-à-dire que le conseil départemental va être celui qui, in fine, va financer aussi cette prise en charge, et en même temps, celui qui va donner son avis sur minorité, majorité, et du coup prise en charge ou pas prise en charge.
Marguerite Orange, chef du pôle défense des droits de l'enfant au sein du défenseur des droits.
Le risque, c'est que ces rapports, et on en voit du coup dans les dossiers dont on est saisi, soient en fait le fruit d'entretiens d'évaluation qui sont très courts, 15 minutes, pour évaluer si une personne est mineure et son état de famille, de vie, de développement. Et voilà ce qu'on appelle l'isolement, et avec des appréciations qui sont éminemment subjectives, qui vont parfois consister à faire retracer par le jeune son parcours, les raisons de sa venue en France, ses projets également, afin d'en tirer quelque chose sur sa minorité ou sa majorité. Sauf que en quoi un parcours, des projets reflète ou pas cette minorité ou cette majorité. Et puis également, des appréciations, tristement subjectives sur parfois le faciès, la façon de se comporter. Bref, divers biais qui aujourd'hui posent éminemment question sur la protection que l'on apporte à ces enfants, parce qu'in fine, cet avis, il va déterminer en tout cas une première étape de prise en charge avant tout recours au juge.
Ces enfants sont un embarras pour les États européens. Puisqu'on ne peut pas les empêcher de passer, puisqu'on ne peut pas criminaliser leur présence, il va s'agir d'essayer au moins de filtrer ceux qui vont pouvoir prétendre aux largesses de l'État-providence, et donc essayer de sophistiquer le plus possible les filtres d'accès à la protection de l'enfance.
Et donc, en fait, finalement, on voit comment la protection de l'enfance peut devenir un relais ou en tout cas une courroie de transmission du contrôle migratoire, alors qu'elle se pense, a priori, originellement, comme parfaitement antinomique de ces préoccupations du contrôle migratoire. Mais on voit combien la protection de l'enfance peut fonctionner comme autant de hotspots qui vont organiser un tri radical entre les personnes qui seraient considérées comme légitimes à être là et les personnes qui seront considérées comme illégitimes. Et donc, ce que je voudrais mettre en valeur, c'est à quel point cette obsession de la minorité d'âge, qui ne fait sens que dans un certain univers du monde, produit une espèce de chaos technique, à la fois pour les jeunes et pour les professionnels qui sont mobilisés autour d'eux, tout comme pour les militants et les bénévoles, où en fait c'est une espèce de grande cacophonie, où personne ne croit aux règles du jeu et tout le monde est contraint à faire semblant d'y croire encore et de devoir y jouer.
L'avocate n'a pas été. Non. Je dis juste à quelle heure on arrive au tribunal. Ok.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter?
Oui, Jessica, bénévole au Midi du Mi. J'accompagne Mamadi à son audience.
C'est quoi cette audience?
C'est pour qu'on reconnaisse son âge et donc sa minorité pour qu'il soit pris en charge par l'ASE. Et qu'ils puissent bien s'intégrer dans le territoire français.
Tu es confiant, Mamadi, là?
Oui.
Un peu stressé, quand même.
Oui, oui.
Beaucoup. Beaucoup stressé.
Donc là, qu'est-ce qui va se passer concrètement au tribunal de Bobigny?
Là, on... faut qu'on change déjà. Faut qu'on y arrive à Bobigny. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va passer devant le juge avec son avocate. Normalement, un bénévole peut rentrer, mais pas toujours. Et on l'accompagne et la juge va commencer à lui poser des questions sur son parcours. Enfin, ça dépend des juges, c'est particulier. En fonction des juges, c'est aléatoire.
Tu peux me conjuguer le verbe être au passé simple?
Le verbe être.
Je
fuis, tu fuis, il fuit, nous fuîmes, vous fuites, il ou elle fuit.
Bravo.
C'est bien. Je savais pas ça avant.
J'imagine que... pour ce qui est de la préparation de son recours, plus le jeune est accompagné, plus il va avoir des chances d'être considéré comme mineur.
Oui, c'est évident. Et c'est une grande question aussi qui est posée au sein des associations. C'est est-ce qu'on doit encore continuer à accompagner certains jeunes autant qu'on peut le faire, puisqu'on creuse en tout cas les inégalités qui existent déjà entre les jeunes. Mais oui, un jeune qui est accompagné, c'est un jeune qui est conseillé par des gens qui suivent des jeunes depuis des années, qui sont en contact avec de très bons avocats, très engagés pour cette cause.
Avec Mamadi, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Qu'est-ce que vous lui conseillez, lui qui va bientôt avoir son recours?
Donc, toujours en lien avec l'avocat, j'ai dit à Mamadi de faire venir son extrait de naissance. Son avocate avait demandé un livret de scolarité de Guinée. Donc, il a contacté sa mère et sa mère nous a envoyé les documents. L'association a financé l'envoi des documents une fois arrivé à Paris. Et en plus, pour Mamadi, j'ai pris rendez-vous auprès de l'ambassade de Guinée pour faire légaliser ce document d'état civil et également établir une carte consulaire.
Comment comprenez-vous ce contraste qui existe entre le taux de réussite, si tant est qu'on puisse parler de réussite lors de la première évaluation, et le taux de reconnaissance de minorité une fois le recours passé?
Alors, je pense qu'il y a deux principaux facteurs. Le premier, c'est la différence de compétence entre un juge pour enfants qui est à même de juger de la minorité d'un enfant et aussi une différence de temps qui permet aux jeunes de se préparer à l'audience devant le juge pour enfants. Donc le temps de faire venir des papiers si besoin en est, et surtout le temps de prendre confiance, et donc d'être ouvert le jour de l'audience à raconter toute sa traversée, à raconter toute son histoire. Là où un jeune, le jour de son évaluation, puisque c'est normalement quelques jours après son arrivée en France, avec des gens qu'il ne connaît absolument pas, il ne sait pas trop comment ça va se passer, il entend le mot « évaluation » qui peut faire peur. Donc évidemment, on est face à un enfant qui ne va pas raconter toute son histoire, en tout cas qui n'est pas à l'aise pour raconter toute son histoire.
Moi, je pensais que... Moi, je pense que c'est ceux qui utilisent les gens, c'est eux qui viennent là.
Qui quoi?
J'ai dit, moi je pensais que c'est qui tue les gens là, c'est qui vient tribunal.
Ah mais oui, mais c'est tribunal
mais
pénal.
Quand on m'a dit tribunal, j'avais eu peur d'abord.
Ah oui, ça, sauf, tu pensais que tu avais fait quelque chose de mal.
Ouais, m'a expliqué maintenant.
Tu avais peur au début?
Ouais, parce que c'est ma première fois de voir ça.
Tu pensais que c'était pour les voleurs, les brigands et les bandits?
Ouais.
Comment tu te sens là? Ça va? T'as parlé un petit peu avec l'avocate?
Non, pas encore.
Tu parleras devant la salle d'audience.
Je vais vous laisser peut-être, faut y aller, non?
Ouais, on va y aller tranquillement. Comme ça, il va pouvoir prendre ses marques dans la salle d'attente. Et comme ça, il verra aussi l'avocate quelques minutes avant l'audience pour discuter avec elle.
Bon, Mamadi, tu m'envoies un vocal si jamais la réponse...
D'accord.
Merde.
Hein?
Merde, ça veut dire bonne chance.
Merci.
Du désert, je me souviens d'un paysage plat. Je me souviens du soleil au zénith. Je me souviens du rouge de l'aube et du crépuscule. Je me souviens des hommes enturbanés. Impossible, par contre, de me souvenir du nom de la ville algérienne que nous atteignîmes de l'autre côté du désert. Nous descendîmes dans un foyer où nous restâmes une semaine. Personne n'en sortait. Pour tuer l'ennui, je me joignis à certains jeunes de mon âge qui avaient des téléphones et m'invitaient à jouer à Ludo King en mode local. Nous mangions deux fois par jour, alternativement du couscous et des haricots. Je n'ai pas le souvenir des détails du voyage qui m'a mené jusqu'à Sfax, en Tunisie. Là, nous campâmes au milieu d'un champ d'oliviers à proximité de la mer. Nous y sommes restés deux ou trois semaines, peut-être, lorsqu'un soir, un homme est venu nous dire de nous préparer pour le départ vers l'Europe, la nuit même. J'étais heureux jusqu'à ce que je voie la mer et ses mouvements. Je ne savais et ne sais toujours pas nager. Des hommes ont porté un bateau pneumatique sur leur tête pour le mettre à l'eau. Je ne saurais dire combien nous étions embarqués, 40, 50 personnes. On m'installa au milieu du bateau comme on le fait toujours pour les femmes et les enfants, et nous partîmes au milieu de la nuit.
C'était Jeunesses africaines en exil, épisode 2, trier, évaluer, la fabrique du mineur non accompagné. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakubowiez.
Et bon, bonsoir monsieur, bon, mon audience a été bien passée. Ils m'ont dit maintenant que j'ai dit, je vais prendre Régita.
Avec Mohamed, Mamadou, Mamadi, Thomas, Daniel Senovilla, Noémie Paté, Junior, Cléo Marmier, Milor, Béatrix Alan, Muriel Yao, Marguerite Orange et Jessica. Lecture Hubert Caporal et Mamadi, comédienne Gwenda Goudvasseur, prise de son Marie-Claire Oumabadi, mixage Manon Houssin, chargée de programme Marie-Vona Bolivier et Anaï Morales, coordination Johanna Bedeau. Les pages web sur le site de France Culture et le podcast sur l'appli Radio France.
Et bonjour monsieur, bonjour. J'ai été placé aujourd'hui.